Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons concrètement apporter quelques éléments de réponse à une question fondamentale. Une question importante d'une part pour ceux qui se déclarent croyants, mais aussi pour ceux qui s'intéressent ou ceux qui veulent en savoir plus sur le Dieu de la Bible. Alors voici la question, écoutez bien. Qu'est-ce qui est important pour Dieu lorsqu'il regarde à chaque être humain? À quoi prête-t-il attention quand il regarde à chacun de nous? Je vais l'afficher. Voilà. Ce qui est important pour Dieu devrait, du moins à minima, l'être également pour nous. En effet, comme nous allons le voir, la réponse à la question touche à notre personne dans sa globalité, à nos relations mutuelles, à notre être tout entier. Et pour y répondre, on va rejoindre le peuple d'Israël, qui a depuis peu le premier roi de son histoire. Il s'agit du roi Saül, et nous sommes dans les années 1000 avant Jésus-Christ. Et ce qui est particulièrement intéressant dans l'histoire que Magali et Véro vont nous lire tout à l'heure, c'est de comprendre dans quel contexte le peuple a obtenu son premier roi. Et voici, Dieu va donner un verdict lui-même sur l'état de son peuple, lorsqu'il va lui demander ce roi-là. Il va lui donner ce verdict dans 1 Samuel 8, que je vais vous lire. Il lui dit, « Te voilà, vieux, maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » L'Éternel dit à Samuel, donc Samuel c'est le juge, il gère les conflits, mais il est également intermédiaire entre Dieu et son peuple. L'Éternel dit à Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi, afin que je ne règne pas sur eux. Le peuple rejette Dieu. Voilà dans quel contexte ça se déroule. Et c'est précisément à ce peuple que Dieu veut parler au travers de ce texte. Et je vous invite à écouter la lecture que Véro Magali vont nous faire. Donc, c'est dans la Bible, à la page 201, pour ceux et celles qui veulent bien suivre. Alors. Samuel dit à Saül.
C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper les Amalécites. Vouez à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes.
Saül convoqua le peuple et le passa en revue à Télaïm. Il y avait 200 000 fantassins ainsi que 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans la vallée. Et il dit aux Kéniens,
partez, retirez-vous, quittez les Amalécites afin que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux. En effet, vous avez fait preuve de bonté envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés d'Égypte.
Les Kéniens se retirèrent alors du milieu des Amalécites. Saül porta des coups à Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui fait face à l'Égypte. Il captura Agag, le roi d'Amalek, vivant, et il voit la destruction de tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs et les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. Alors l'Éternel s'adressa sa parole à Samuel. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. Et on vint lui dire, Saül s'est rendu à Carmel et il s'y est érigé un monument. Puis il est reparti en passant plus loin et il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit vers Saül et Saül lui dit
« Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. »
Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?
Ils les ont amenés de chez les Amalécites. parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction.
Arrête ! Je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit.
Parle.
Alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël ? L'Éternel t'avait envoyé en disant « Va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. » Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve ?
J'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple a pris sur le butin les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devraient être consacrés, afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal.
L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au théraphin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi.
J'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché et reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel.
Je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël.
Alors que Samuel tournait le dos pour s'en aller, Saül l'attrapa par le pan de son manteau qui fut arraché. Samuel lui dit
« L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets.
J'ai péché, maintenant honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. »
Samuel revint à la suite de Saül et Saül adora l'Éternel. Puis Samuel dit
« Amenez-moi Agag, le roi d'Amalek. »
Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il se disait « Certainement, l'amertume de la mort s'est écartée. » Samuel dit
« De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, de même ta mère sera privée d'un fils. »
Samuel mit en pièces Agag devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saül remonta chez lui à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, il pleurait sur lui parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi d'Israël. Merci. Qu'est-ce qui est important pour Dieu lorsqu'il regarde à chaque être humain ? À quoi prête-t-il attention lorsqu'il me voit, lorsqu'il vous voit ? Le texte qui nous a été lu nous présente deux jugements. D'une part, on a le jugement des Amalécites et de l'autre, on a le jugement du roi Saül. Ces deux jugements ont la même cause. Et voici cette réalité qui en découle. C'est que Dieu, avant tout, est un roi de justice. Dieu est un roi de justice. Et il accorde une attention particulière à notre attitude de cœur. Dieu regarde à ce qui nous anime. En effet, c'est sur cette base qu'il juge les personnes dans ce texte, leurs actes, mais également ce qui se passe à l'intérieur de leur cœur. Et par ces deux jugements, Dieu veut parler à son peuple en disant « Attention à l'état de votre cœur, mon cher peuple Israël. Votre cœur est loin de moi et ce n'est pas sans risque. Pourquoi ? » Eh bien, tout simplement parce que Dieu règne. Il règne avec justice. Qu'est-ce que cela vous évoque, le fait que Dieu règne ? Quelles en sont les applications ? Alors, on va le voir ensemble. On va d'abord se focaliser sur comment est-ce que Dieu manifeste sa justice face à la rébellion des Amalécites. Ensuite, on verra comment est-ce que Dieu applique sa justice avec la rébellion de Saül. Et à chaque fois, on va essayer de voir voilà, qu'est-ce que Dieu fait et qu'est-ce qui ressort du cœur. Alors, le roi en Israël à ce moment-là, quand on vient de lire, on est d'accord que c'est Saül, n'est-ce pas ? Pourtant, si on regarde au premier verset, ce qui ressort dans ce texte, c'est que Samuel dit « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer roi par onction sur son peuple, Israël, sur son peuple. » Les positions sont claires. Saül est le roi par délégation. Le peuple appartient à Dieu, lui seul règne sur ce peuple. Et ce n'est pas tout. Regardez le verset 2. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. D'autres versions traduisent par l'Éternel des armées. Ça renvoie à la toute-puissance de Dieu, au fait qu'il règne dans les cieux, qu'il a tout créé, aussi bien ce qui est dans le ciel, mais aussi sur la terre. Il règne dans le monde en tant que créateur. Voilà les mots qui introduisent l'ordre que Saül va recevoir, le décret de destruction et qui est assez difficile comme ça à appréhender. On va y arriver justement. Au verset 3, « Va maintenant frapper les Amalécites voués à la destruction, tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, bébés, bœufs, brebis, chameaux et ânes. » Dans ce texte, Dieu juge le mal. On va le voir dans quelques minutes. J'imagine qu'en ce moment, plusieurs questions fusent dans nos têtes. Qu'ont-ils bien pu faire pour mériter ça? C'est injuste, trop sévère. Où est la grâce? Où est le Dieu d'amour? Nous allons répondre à ces questions. Mais avant, permettez-moi de vous présenter trois situations. Probablement maintenant, là où vous êtes assis, vous avez quelques pièces dans votre poche, peut-être des petites pièces que vous avez. La question que je vous pose, c'est à qui est-ce que vous rendez des comptes sur l'usage que vous faites des pièces qui vous appartiennent? Et plus généralement, à qui vous rendez des comptes sur l'usage que vous faites de vos créations? Supposons que vous soyez peintre, vous avez peint une jolie toile et que vous décidez de la vendre, de la détruire ou de la donner. À qui est-ce que vous rendez des comptes? Dans ce texte, Dieu se révèle comme étant le créateur, le maître de l'univers. Deuxième situation. Imaginez que vous assistez, donc on est au procès, dans un procès au tribunal de Grenoble, et le juge prononce sa sentence. 40 ans de prison pour Monsieur Jean Dupont. 40 ans de prison. Est-ce que la sentence du juge implique que d'un coup, il cesse d'aimer? Le juge est-il dépourvu d'amour ou au contraire travaille-t-il pour le bien commun en faisant respecter la loi? Qu'en est-il pour Dieu? Dans ce texte, Dieu applique la loi, applique la justice. Et enfin, une dernière situation. Imaginez que pendant un an, une personne que vous connaissez, que vous avez parfaitement identifiée, vous casse quelque chose toutes les deux semaines. Votre rétro, la vitre de votre maison, votre portable, il s'en prend même à vous physiquement. Au bout de combien de temps allez-vous lui demander des comptes? Deux semaines? Deux mois? Vous avez vos réponses? Eh bien, très bien, gardez-les, on va y revenir dans quelques instants. Maintenant, revenons à la condamnation des Amalécites qui interrogent. Alors, qui sont ces Amalécites? Il s'agit de la première nation à avoir attaqué le peuple d'Israël après les Égyptiens, donc quand les Égyptiens sortent d'Égypte. Enfin, les Israélites sortent d'Égypte. Donc, on est là, ils sortent, ils arrivent ici à Rephidim, mais c'est là qu'il y aura la première attaque. Cette attaque a lieu 4 siècles avant l'histoire qu'on vous a lue tout à l'heure en introduction. Et Dieu va dire dans Deutéronome, il va dire, souviens-toi, il va dire à son peuple, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment, sans aucune crainte de Dieu, il tomba sur toi par derrière. Lorsque ton Dieu t'accordera du repos dans le pays, tu effaceras la mémoire d'Amalek du dessous les cieux. Ne l'oublie point. C'est ce que Dieu dit 4 siècles avant le récit qu'on vient de lire. Quelle est la faute des Amalécites? D'après le texte, aucune crainte de Dieu. La conquête de Canaan a amené le peuple à Jéricho. Donc, c'est tout en haut, à Jéricho, où ils vont attaquer avec le pays de Canaan, avec Josué. Dans cette ville, il y avait une femme du nom de Rahab. Et Rahab va illustrer quelque part cette crainte de Dieu-là. Je vais vous lire dans un autre texte, dans Josué, où il va dire « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous la mer des roseaux. » Un contraste frappant. Contrairement à Rahab, les Amalécites n'ont fait preuve d'aucune crainte vis-à-vis de Dieu. En effet, l'Égypte étant une plaque tournante, une grande nation à l'époque, nul ne pouvait ignorer ce que Dieu avait fait. Et en décidant d'attaquer son peuple, les Amalécites s'attaquent directement à Dieu. Ils l'ont ignoré dans le monde qu'il a créé. Ils n'en ont fait qu'à leur tête, sans tenir compte de lui. Et ici, Dieu condamne cette attitude. Voilà un premier élément de réponse sur la justice de Dieu. On va en voir un deuxième. Dans ce passage, dans le passage qu'on a vu tout à l'heure, il y a quelque chose de frappant, c'est Dieu dit « va maintenant ». Regardez le début du verset, « va maintenant ». Pourquoi maintenant? Pourquoi cette indication-là? Dans son livre « Répondre au djihad », Nabil Kourouchi compare le djihad dans l'islam aux conquêtes de Canaan. Et il va établir une règle qu'il appelait la règle des 400. Il dit « si tu veux suivre la manière biblique d'attaquer un pays, la première chose à faire, c'est d'attendre 400 ans. Si tu veux suivre la manière biblique d'attaquer un pays, la première chose à faire, c'est d'attendre 400 ans. » Et derrière, il cite ce passage que je vais vous lire. Dieu s'adresse à Abraham. Donc Abraham, à ce moment-là, il est en Canaan. Il dit « sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. » Il s'agit de l'Égypte. « Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens, leur faute, n'est pas encore à son comble. » 400 ans. Où est le Dieu d'amour? Eh bien, pendant 400 ans, Dieu fait grâce, laissant à ses peuples l'occasion de se repentir, de changer de voie. Malheureusement pour eux, ils ne l'ont pas fait. 400 ans plus tard, Dieu juge l'attitude de ces peuples-là qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, venons-en à notre cas, le cas qui nous concerne, celui des Amalécites. J'ai essayé de faire une frise en basant sur une carte que David Schutz, un enseignant à l'IBG, propose. Donc, on voit ici qu'il y a 400 ans qui séparent, donc là c'est le séjour d'Égypte, là c'est le temps généraux où Moïse et Josué vont régner, la période des juges et la période des rois. Ce qui se passe, c'est que pendant 400, on a les 400 ans là, où pendant ce temps, Israël sera en Égypte en tant qu'esclave, ils seront libérés. Ici, c'est à ce niveau-là que commence l'Exode. Et ils vont arriver ensuite à Canaan, où c'est avec Josué qu'il y aura le début de la conquête de Canaan. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on est actuellement à l'époque des rois où il y a Samuel qui est roi. Et ce qui est frappant, c'est de voir qu'il y a autant de temps, 400 ans. 400 ans sont écoulés. Les Amalécites ont-ils changé d'attitude après ce temps? Est-ce que leurs enfants, 400 ans plus tôt, est-ce que les enfants derrière sont devenus meilleurs que les parents? La réponse est non. En effet, lorsque Samuel va exécuter Agag, il va dire « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, de même ta mère sera privée d'un fils. » Ils sont restés cruels. Et j'ai compté trois attaques des Amalécites contre les Israélites dans le livre des Juges. Il y en a à trois reprises, ils ont continué à attaquer le peuple d'Israël. Et même juste au chapitre 14 avant, il y a une nouvelle attaque des Amalécites vis-à-vis du peuple. Et ça, c'est ce qui est figure dans la Bible, ce n'est pas forcément exhaustif. Bref, ils ont continué à attaquer les Israélites, d'où la juste sentence de Dieu. Est-ce que vous voyez l'amour de Dieu, sa patience? Sans ces éléments, notre interprétation sur la condamnation de Dieu aurait peut-être été erronée. D'où l'importance du contexte et de l'histoire globale. La Bible, quant à elle, elle se défend toute seule. En résumé, on vient de voir que Dieu règne et que son règne implique sa justice. Qu'il est le roi qui établit la justice. Si le roi c'est Dieu, alors c'est qu'on doit en appeler à lui rendre des comptes. Et il ne peut pas laisser le mal impuni. Et ce texte nous montre qu'il y aura un temps pour la justice. Mais heureusement pour nous, Dieu veut faire grâce aussi. Et ce règne de Dieu invite à un changement, c'est-à-dire à une obéissance, sans hypocrisie. Alors, Dieu vient de faire une mise en garde à son peuple, Israël, ici, et il va souligner cela avec l'exemple de Saül. Il va enfoncer le clou. Il va redire avec force que son règne est un règne de justice. Et il va le faire en exposant le cœur de Saül. C'est notre deuxième point. On va voir comment Dieu juge l'attitude de Saül. On va le voir avec trois références. D'abord celle-là. En fait, on voit dans ce qu'on vient de lire, l'omniscience de Dieu. Dans le texte, au début, ce qui se passe, c'est que Dieu agit en temps réel. Pendant que Saül est de l'autre côté en train de sélectionner les brebis, Dieu apparaît à Samuel et lui dit ce qui se passe. La suite du texte peut se résumer en une phrase. Saül soutient corps et âme qu'il a bien fait et il ne veut pas se remettre en question. Saül soutient qu'il a bien fait et qu'il ne veut pas se remettre en question. Enfin, il le fera un peu à la fin. Il n'en est rien. Et Dieu va souligner l'attitude de cœur de Saül. Dans le passage qui est là, Saül s'attribue les réussites de Dieu. J'ai souligné monument. Saül va s'attribuer quelque part cette victoire de Dieu en s'érigeant un monument pour lui. Voilà un trait de l'attitude de son cœur. Au tout début, Dieu se présente comme étant le maître de l'univers ou l'éternel des armées, c'est-à-dire que c'est lui qui mène les batailles, c'est lui qui est victorieux. Et là, quelque part, Saül, s'attribue cette victoire-là. Et c'est contrastant de voir comment est-ce que Saül a évolué. Quelques versets avant, il disait ceci, quand on est venu le demander d'être roi, il disait « Ne suis-je pas un Benjamite, membre de la plus petite des tribus d'Israël ? Et mon clan n'est-il pas le plus insignifiant de tous ceux que compte la tribu de Benjamin ? Pourquoi donc me tiens-tu ce discours ?» Quand on est venu le demander d'être roi, il était dans une humilité évidente. Comme quoi, rien ne garantit on doit veiller sur notre comportement. Qu'en est-il pour nous ? Que produisent les réussites qu'on peut avoir au travail, dans notre ministère ? Il y a quelques semaines, je préparais un texte sur 1 Corinthiens 8, où Paul va dire « La connaissance enfle, mais l'amour édifie ». Je suis assez curieux, pour ceux qui me connaissent, j'aime lire, découvrir des choses, et ce texte-là m'a frappé de plein fouet, en me rappelant que des fois, ces connaissances que je pouvais avoir étaient provoquées en moi de l'orgueil. Et Dieu m'appelait à me repentir de cela. Quel est notre rapport aux réussites ? Saül prétend vouloir honorer Dieu. Quand Samuel vient le rencontrer, il dit « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » Saül prétend vouloir honorer Dieu, mais en fait, tout en le désobéissant. Saül a clairement ignoré Dieu. L'ordre était clair. Dieu a commencé par rappeler à Saül que c'est un roi par délégation et que c'est lui qui est le véritable roi. Et en tant que roi, c'est à lui qu'on doit rendre des comptes. Ici, Saül est coupable. Et plus tard, si on lit le récit de 1 Samuel, on arrive au chapitre 30, on se rendra compte qu'il a laissé filer d'autres personnes en dehors du roi qu'il prétend avoir gardé. Et ça, c'est la deuxième fois que Saül, quelque part, va être rejeté dans ce texte. Peut-être un autre point, c'est juste après, où il dit, où on voit que le cœur de Saül est tourné vers ce qui plaît aux hommes. Dans ce texte, Saül va faire la sélection des meilleures brebis sous prétexte qu'il va les offrir en sacrifice. Un commentateur fait remarquer que lorsque le peuple offrait les sacrifices de ces animaux, une partie de ce qui était offert revenait à la personne qui l'avait offerte. En gros, une partie de ce qu'ils avaient rapporté allait leur revenir, quand bien même ils donneraient des sacrifices. Et ici, Saül veut clairement plaire à ses hommes, alors que c'est lui le roi, c'est lui qui est censé régner par délégation. Et peut-être un autre aspect, c'est de voir plus tard que Saül veut vivre une repentance sous condition. Il va dire « J'ai péché », quelques versets plus tard, « maintenant honore-moi devant les anciens de mon peuple, devant Israël. Honore-moi devant les anciens de mon peuple, devant Israël. Reviens à moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. » Saül est tourné vers ce qui plaît aux hommes. Il ne réalise pas combien c'est devant Dieu qu'il est coupable et ce qui le préoccupe, c'est ce que les autres vont penser. Tout comme ici. Alors Oswald Chambers, qui est un enseignant écossais du XXe siècle, a écrit dit quelque chose à propos du cœur de l'homme, de cette nature-là. Il dit que qu'on appelle le péché, il dit que le péché est une relation fondamentale. Ce n'est pas commettre des actions mauvaises, c'est être mauvais. C'est une volonté délibérée et catégorique d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et ici, on le voit comment Saül l'illustre. À qui voulons-nous plaire ? À qui voulons-nous plaire ? Samuel va souligner l'obéissance que Dieu attend de nous. Une obéissance qui est complète, qui est pleine. On ne choisit pas juste ce qu'on veut. La justice de Dieu implique que nous soyons justes devant lui, que nous marchions en lui obéissant. Et dans ce texte, Dieu exige un roi juste. 1 Samuel 15 se trouve au milieu du livre de Samuel. Et juste après, on a 1 Samuel 16, et du coup, 1 Samuel 15 est un prélude avant 1 Samuel 16. Pourquoi ? Parce que dans 1 Samuel 16, Dieu va choisir un nouveau roi. Et il dira que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et David sera par la suite appelé l'homme selon le cœur de Dieu. David va faire certes des erreurs, il sera meurtrier, il va coucher avec la femme d'un autre, mais contrairement à Saül, il sera lucide sur son état. Il va écrire un texte, où il va dire... Le fou dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu n'existe pas. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions mauvaises. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Et quand l'on dit « tous se sont éloignés ensemble, ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul ». Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. David s'inclut dans ce constat-là. Les humanistes ont tort. L'homme n'est pas fondamentalement bon. Et pour nous en convaincre, il nous suffit de regarder au monde qui nous entoure. L'homme n'est pas fondamentalement bon, excepté une personne. Dans la Bible, le dernier livre qu'on appelle Apocalypse, au chapitre 5, il y a un texte que j'aimerais vous lire. C'est une vision que Jean a, donc Jean est l'un des disciples de Jésus, et il dit « Je vis aussi un ange puissant proclamé d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. » Alors l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejetant de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. » Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant lui. Chacun tenait une harpe et il chanta un cantique nouveau « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux des rois, des prêtres pour notre Dieu. » Plus tard, il va rajouter « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Ce texte nous parle de Jésus, qui est sur le trône, comme on vient de le dire, et qui est mort à la croix, qui a offert son sang pour des pécheurs. En offrant son sang, il a accompli de façon parfaite la justice de Dieu. La justice de Dieu qui condamne le pécheur. Et au travers de sa mort et de sa résurrection, Dieu nous considère comme juste. Quelques applications pour conclure. Le texte nous invite à reconsidérer le règne de Dieu. Pour nous. Les Amalécites, dans ce texte, ont clairement ignoré Dieu en s'attaquant au peuple. Est-ce que, peut-être ce soir, tu ignores Dieu ? Peut-être que tu ne le connais pas. Pourquoi pas commencer un parcours découverte, pour connaître ce Dieu-là ? Ce texte nous rappelle qu'il y a de l'injustice dans notre cœur. Est-ce que nous sommes conscients de cela ? Peut-être l'occasion de demander à Dieu de nous montrer l'injustice qu'il y a dans notre cœur. Ces choix où on obéit de façon partielle à Dieu. Dieu nous appelle à aimer notre prochain, à aimer même nos ennemis, notre voisin de palier. Est-ce que cet amour est vrai, authentique, reflète Dieu, ce que Dieu nous demande ? Ce texte nous invite également à reconnaître nos torts, à apprendre à nous remettre en question. David Paulison dit une phrase dans son livre, dans l'un de ses livres, il dit « C'est seulement en reconnaissant notre péché et notre résistance à Dieu que nous pouvons voir clairement, agir avec bienveillance et aider les autres à être tout aussi honnêtes avec eux-mêmes. » Autrement dit, on commence avec nous-mêmes avant d'aller aider les autres. Sommes-nous prêts à nous remettre en question ? Lorsque dans notre couple, par exemple, on est repris par l'un des conjoints, ou peut-être dans nos relations de tous les jours, on nous montre quelque chose qui ne va pas en nous, est-ce qu'on accepte ? Comment est-ce qu'on réagit ? Est-ce qu'on accepte de se remettre en question ? Et dernier point, c'est juste de nous encourager mutuellement en comptant les uns sur les autres. Saül avait le privilège d'avoir Samuel, qu'il a intronisé en tant que roi, mais qui est également la personne qui pouvait le reprendre, qui pouvait l'encourager. Et aujourd'hui, on a l'Église, et comme vous pouvez le voir, on vit en communauté. Et je pense que c'est un endroit où tous, on sait qu'on n'est pas meilleur que les autres. C'est un endroit où on peut s'encourager mutuellement, en se disant la vérité, bien entendu, mais aussi en apprenant à marcher avec peut-être d'autres qui ont plus du mal, sachant que nous-mêmes, on est nullement meilleurs. Je vais prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton règne. Merci parce que tu es ce Dieu qui règne. C'est vrai qu'on vit dans un monde où on voit plein de choses, plein d'injustices. Et Seigneur, on est content de voir qu'à un moment donné, tu feras justice. Et Père, merci pour cela. Merci aussi de nous montrer que notre cœur, de façon évidente, il y a des manquements en nous, Seigneur, et je te remercie d'être mort à la croix pour cela, et je te prie que tu nous aides, Seigneur. Tu m'aides à être au clair avec moi-même, à ne pas porter des masques comme Saül le fait ici, Seigneur, et aide-moi, Seigneur, aide-nous à gérer nos réussites. Aide-nous, Seigneur, à ne pas t'ignorer comme les Amalécites l'ont fait. Prendre du temps avec toi, Seigneur. En ton nom, j'ai prié. Amen.